aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Vion à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 20 avril 2023. Au Soudan, le chef de l'ONU appelle à au moins 3 jours de trêve pour la fin du Ramadan. Les États-Unis dépêchent des militaires pour faciliter une éventuelle évacuation du personnel de leur ambassade. Au Mali, le chef de cabinet du président tué lors d'une attaque. Ici aux États-Unis, le média conservateur Fox News débourse près de 800 millions de dollars pour éviter un procès en diffamation sur la présidentielle de 2020.
Alors évidemment, cela entache la crédibilité des médias aux États-Unis. Cela montre bien que le système démocratique peut être, si vous voulez, coopté, peut être entaché.
Impact de ce procès dans le champ médiatique américain à suivre dans la partie magazine avec l'analyse de Marilyn Sefok de l'Université Howard ici à Washington. Une bousculade fait au moins 85 morts et des centaines de blessés au Yémen. Alerte au climat, le monde pourrait connaître des températures records en 2023. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a discuté aujourd'hui avec son homologue Emmanuel Macron de la récente visite en Chine du président français, dont les propos récents sur la question de Taïwan ont suscité des critiques en Europe et aux États-Unis. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont évoqué le déplacement récent du président Macron en Chine et leurs efforts continuent pour promouvoir la prospérité, la sécurité, les valeurs partagées et l'ordre international basé sur l'état des droits dans la région Asie-Pacifique et ont réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan. L'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le secrétaire général de l'Alliance transatlantique, Jens Stoltenberg, en visite à Kiev pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022. L'OTAN est à vos côtés aujourd'hui, demain et aussi longtemps qu'il le faudra, a déclaré le secrétaire général avant d'inviter le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius en Lituanie au mois de juillet. La candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et les garanties de sécurité pour le pays vont figurer à l'ordre du jour du sommet, a-t-il fait valoir. La Russie a pour sa part redit ce jeudi son opposition à ce que l'Ukraine, une ancienne république soviétique, rejoigne l'alliance transatlantique. Le monde pourrait connaître des températures records en 2023, conséquence de l'effet du changement climatique et du retour attendu du phénomène météorologique El Niño. C'est en tout cas ce que révèlent les climatologues. Les précisions de John Lindon.
Les modèles climatiques suggèrent qu'après 3 années du phénomène météorologique La Niña dans l'océan Pacifique, qui fait généralement baisser légèrement les températures mondiales, le monde connaîtra un retour du phénomène El Niño, son pendant chaud, dans le courant de l'année. Pendant El Niño, les vents soufflant vers l'ouest le long de l'équateur ralentissent et les eaux chaudes sont poussées vers l'est, ce qui entraîne un réchauffement des températures de surface des océans. L'année 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et a coïncidé avec un fort El Niño. Du fait du changement climatique, des températures extrêmes ont été observées même les années où ce phénomène n'existait pas. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, ce qui reflète la tendance au réchauffement à long terme dû aux émissions de gaz à effet de serre.
Et justement, à propos de climat, le président américain Joe Biden a annoncé $1 milliard supplémentaires en fonds destinés au climat lors d'une rencontre virtuelle avec des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde afin de coordonner les efforts contre le réchauffement climatique. Au moins 85 morts et des centaines de blessés dans une bousculade au Yémen. Le drame s'est produit lors d'une action caritative. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans une école pour recevoir une aide d'environ $8 distribuée par un commerçant. Alexandrine Ollognon.
Des images diffusées par la chaîne Al Masira montrent une foule dense et des personnes grimpant les unes sur les autres pour tenter de se frayer un chemin. Dans une autre vidéo, des corps gisent sur le sol dans la panique générale. Selon certains témoins, des coups de feu ont provoqué le mouvement de foule, ce qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante. Des enfants figurent parmi les personnes décédées et une cinquantaine de blessés se trouvent dans un état grave. Le drame endeuille le Yémen au moment où les habitants espéraient sortir enfin de la guerre. Cette bousculade vient s'ajouter à un contexte d'épidémie, de manque d'eau potable et de faim aiguë, avec plus des trois quarts de la population dépendant d'une aide internationale qui ne cesse pourtant de diminuer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu d'au moins trois jours au Soudan alors que les affrontements meurtriers entre l'armée et les paramilitaires se poursuivent pour la sixième journée consécutive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hostilités ont déjà fait plus de 330 morts et 3200 blessés. Le point avec Jacques Aristide.
La demande de trêve du patron de l'ONU intervient à l'occasion des célébrations qui marquent la fin du mois de jeûne du Ramadan. C'est un moment important du calendrier musulman. Je pense que c'est le bon moment pour qu'un cessez-le-feu puisse tenir. Nous sommes en contact avec les parties. Nous pensons que c'est possible, a déclaré Antonio Guterres après une réunion virtuelle ce jeudi avec les dirigeants de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales. Sur le terrain, toutefois, les combats ne connaissent aucun répit. Pour sa première réaction depuis samedi, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé à Al Jazeera qu'il n'y aurait pas de discussion politique ni pour parler direct avec son rival Mohamed Hamdan Daglo, qui lui est à la tête des redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans un entretien téléphonique à la chaîne basée au Qatar, il a prévenu le général Daglo, soit il cesse de vouloir contrôler le pays, soit il se fera écraser militairement. Entre 10 000 à 20 000 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont trouvé refuge au Tchad voisin. D'après le Pentagone, les États-Unis dépêchent des militaires dans la région pour faciliter une éventuelle évacuation du personnel de leur ambassade à Khartoum.
Au Mali, le chef de cabinet du colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été tué mardi dans une embuscade. Il faisait partie d'une délégation en prospection pour les œuvres sociales de la présidence. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
La délégation des œuvres sociales du président était venue prospecter les forages de puits pour les populations locales à proximité de la ville de Nara, près de la frontière mauritanienne, non loin de la forêt du Ouagadou, connue pour abriter des djihadistes. Selon une note de la présidence rendue publique ce jeudi, dans la dite délégation figuraient quatre victimes, Oumar Traoré, chef de cabinet du colonel Goïta, un agent de sécurité, un entrepreneur et un chauffeur. Par ailleurs, un autre chauffeur est porté disparu d'après la note. Les obsèques ont lieu jeudi à Kati, ville garnison près de la capitale Bamako, précise la note. Un responsable administratif dans la région a affirmé que la mission n'avait pas une escorte adéquate. Un élu local a de son côté alerté sur la situation sécuritaire sur place qui se dégrade de jour en jour. Le Mali est en effet en proie à la propagation djihadiste et autres violences depuis le déclenchement de rébellions dans le nord du pays en 2012. Malgré la présence de forces internationales, ces violences sont étendues ailleurs dans le pays, ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin.
En Ouganda, environ un tiers du gouvernement et des dizaines de parlementaires risquent des poursuites pénales dans un scandale de corruption qui suscite un tollé dans le pays. Mercredi, une troisième ministre a été arrêtée dans cette affaire sur le détournement de 14 500 plaques de tôle destinées à la construction de logements sociaux dans la région pauvre de Karamoja. Pas moins de 26 membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-président et le premier ministre, risquent des poursuites pénales, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le président Yoweri Museveni, qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 1986, a personnellement assuré que toutes les personnes impliquées seront traitées de manière appropriée. La justice tunisienne a ordonné aujourd'hui le placement en détention de Rached Ghannouchi, chef de file du parti islamiste modéré Ennahda, le principal parti d'opposition au président Kais Saied. Arrêté lundi, Ghanouchi, un des plus virulents critiques du président, est accusé de complot contre la sécurité intérieure de l'État. La décision de l'emprisonner a été prise à l'issue d'une enquête qui a duré 8 heures, a fait savoir son avocate. Les autorités tunisiennes ont multiplié les arrestations d'opposants depuis le début de l'année, enfermant de plus en plus le régime de Kais Saied dans une logique répressive après la suspension en 2021 et l'adoption d'une constitution accordant les quasi pleins pouvoirs au chef de l'État. Et puis au Cameroun, au moins 5 personnes sont décédées du choléra en 4 semaines dans la capitale Yaoundé et ses environs, relativement épargnés d'ordinaire, a annoncé le ministre de la Santé, qui évoque une recrudescence. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les exportations de cuivre et de cobalt de CMOC à partir de la mine Tenke Fungureme en République démocratique du Congo vont bientôt reprendre selon un accord avec la Gécamines sur les redevances. En tant qu'actionnaire, la Gécamines affirme que l'entreprise chinoise lui doit plus de 7 milliards de dollars. Un administrateur provisoire avait ordonné l'interdiction des exportations en juillet dernier, ce qui a entraîné le stockage de centaines de millions de dollars de cuivre et de cobalt. Le Cameroun va lancer un guichet de transition agroécologique dans la filière cacao avec le concours de l'Union européenne. Il valorisera une agriculture durable intégrant la notion de ceinture verte phytosanitaire. Selon le Fonds de développement des filières cacao et café, ce guichet vise à diminuer l'usage des pesticides en faveur d'une agriculture biologique et à encourager des modes de production respectueux de l'environnement. Les candidatures sont ouvertes en Afrique de l'Ouest et centrale pour l'initiative Visa Everywhere, un concours ouvert aux startups du monde entier qui présente des innovations en matière de paiement et de e-commerce. Les finales pour la région Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique auront lieu le 27 juillet. La start-up qui remportera les finales de la région CEMEA participera à la finale mondiale le 19 septembre à San Francisco.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football africain et les compétitions continentales de clubs amorcent cette semaine la phase des quarts de finale.
Oui, demain soir, l'Espérance de Tunis sera en déplacement en Algérie pour affronter la JS Kabylie, championne de l'épreuve en 1981 1991. Suivra le lendemain le choc de Dar es Salaam entre le Simba AC et le Wydad AC, tenant du titre. Les Mamelodi Sundowns joueront contre le club algérien du CR Belouizdad. Et Al Ahly accueillera le Raja Casablanca dimanche. En Coupe de la Confédération, le club nigérian de Rivers United jouera contre Young Africans de Tanzanie. Pyramids FC d'Égypte recevra le Mamoroumo Gallants d'Afrique du Sud. L'US Monastir jouera contre l'ASEC Mimosa. Et les Algériens de l'USMA en découdront avec les Marocains de l'AS FAR.
Athlétisme sur le continent, le Kenya a annoncé qu'il va intensifier les contrôles antidopage suite à la multiplication des cas de dopage chez les athlètes.
Oui, le ministre kenyan des Sports, Ababu Mamwamba, table sur 3445 contrôles par an sur les 37 900 athlètes contre un millier de tests antidopage actuellement. Dans la même lancée, le gouvernement kenyan a promis d'investir 5 millions de dollars par an pendant 5 ans pour lutter contre le fléau du dopage qui ternit l'image du pays. Au total, ce sont 7 athlètes kenyans, essentiellement des coureurs de fond, qui étaient suspendus ces 5 dernières années pour avoir été contrôlés positifs aux produits dopants.
Bagassi, ici aux États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès a adopté un projet de loi visant à écarter les jeunes transgenres des sports féminins.
Oui, il faut protéger l'intégrité dans le sport féminin, c'est ce qu'a plaidé l'auteur du texte, le républicain Greg Stoibe, citant plusieurs versets bibliques, l'élu de Floride a accusé la gauche d'avoir, je cite, perverti les mœurs américaines en acceptant d'effacer les frontières entre les genres. Le texte voté jeudi interdit à toute école bénéficiant d'un financement fédéral de laisser des personnes, je cite, dont le sexe est masculin fin de citation, jouer dans des équipes féminines. Jean-Roger, toutefois, le texte a peu de chances de passer au Sénat.
À la Ligue des champions d'Europe, le Bayern éliminé, l'Inter et City passent en demi.
Oui, avec 3 buts d'avance depuis le match aller, Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales, ainsi que l'Inter Milan. Manchester City sera face au Real en demi-finale et l'Inter sera face à son grand rival, l'AC Milan. J'espère que vous allez suivre ces rencontres en début mai.
Merci Bagassi. Page de sport VOA Afrique, signé Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. 320 militaires soudanais fuyant les combats meurtriers dans leur pays entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont traversé la frontière dimanche et se sont rendus à l'armée tchadienne, a annoncé mercredi le ministre tchadien de la Défense. La présence de ces fugitifs sur le sol tchadien suscite des craintes d'une contagion du conflit sur place au regard de l'histoire récente entre Khartoum et N'Djamena. Pour une analyse, j'ai joint dans la capitale tchadienne Ahmad Mahamat Hassan, juriste et politologue.
Aujourd'hui, ceux qui sont arrivés, c'est justement ces Arabes-là. La dernière fois, ils ont fait des incursions militaires jusqu'au centre du Tchad, dans le Gora, massacrant les populations sédentaires de l'Inter noire. Maintenant, il y a une partie des réfugiés, c'est vrai, des réfugiés qui sont arrivés, mais la plupart, c'est des militaires armés, des Hemeti, qui se sont retrouvés de ce côté-là, mais ça constitue un danger énorme pour le Tchad, parce qu'il y a une grande communauté arabe missionnée à l'est du Tchad et surtout au centre dans la région du Bata.
Alors, à ce stade, est-ce qu'on peut dire que le conflit soudanais menace de se déporter sur le territoire tchadien?
Absolument. Absolument. Et c'est pour ça que le gouvernement tchadien a pris les devants, malgré la présence depuis des années de la force mixte tchado-soudanaise depuis Idriss Déby. Le président Mahamat Idriss Déby a les dispositions avec son gouvernement pour former la frontière entre le Tchad et le Soudan, et puis surtout masser des troupes à la frontière. C'est pour éviter la contamination. Justement, n'oubliez pas que le pouvoir N'Djamena est chancelant, il est très fragile par rapport à cette période de transition, avec des contestations politico-militaires à l'extrême nord, avec les gens de Mahdi qui avaient attaqué les forces tchadiennes en avril 2021 et qui avait conduit la mort du président Déby. Et puis, il y a des bruits de bottes au niveau allemand dans le Darfour par rapport à cette question du Soudan. Bien sûr, les Arabes reviennent ici avec beaucoup d'armes pour être au Tchad, à l'est et au centre. Et ils constituent une menace pour le pouvoir en place qui est un pouvoir identifié aux communautés noires de Hawa du Tchad et du Soudan.
Alors, les militaires qui ont été recueillis récemment par N'Djamena, quels sont leurs états donc réservés?
Pour le moment, ils ne se sentent pas à l'étranger. Ils sont pour le moment accueillis dans leur seconde nation. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais maintenant, il est difficile de les désarmer. Il est également difficile sans pour autant risquer un affrontement direct. Avec eux, on les a apaisés pour qu'ils ne reviennent pas. On cherche à ne pas les irriter parce qu'ils risquent de faire de l'est du Tchad, du centre, une base de rebondissement contre le Soudan qui n'est pas encore stable. Mais ça fait se retourner contre le régime N'Djamena à la moindre erreur.
Ahmad Mahamat Hassan, juriste et politologue, ancien ministre tchadien.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Ghana, une militante parcourt à la nage le fleuve Volta, long de près de 500 km, ainsi que le lac Volta, afin d'attirer l'attention sur l'aggravation de la pollution de l'eau. Yvette Tété, qui nagera plusieurs heures par jour, pendant plus d'un mois, recueille également des échantillons d'eau en cours de route pour évaluer le niveau de la pollution. Un reportage de Senanou Todd, relaté par Thierry Kaori.
Le lac Volta, au Ghana, est le plus grand lac artificiel du monde en termes de superficie, et l'activiste Yvette Tété le parcourt sur toute sa longueur dans le cadre de sa traversée à la nage du fleuve Volta qui s'étend sur près de 500 km. En moins d'un mois, Yvette a parcouru 300 km, soit jusqu'à 14 km par jour.
Les gens n'entreprennent pas d'action tant qu'ils ne se sentent pas concernés. Et donc, ce que nous faisons avec la nage, c'est les amener simplement à expérimenter ce qu'ils ressentent en étant dans cette région absolument incroyable du Ghana et de leur montrer que cela vaut la peine d'attirer notre attention sur l'espace pour s'assurer que nous préservons la beauté.
Yvette Tété est accompagnée par des chercheurs de la Fondation OR qui soutient sa baignade et milite contre les déchets textiles. Il recueille des échantillons d'eau et d'air tout au long du parcours afin d'étudier les causes de la pollution de l'eau. Le Ghana importe environ 15 millions de vêtements de seconde main chaque semaine, mais l'Institut Tony Blair pour le changement mondial affirme qu'environ 40% d'entre eux finissent dans des décharges, puis dans l'eau. Edwin Zobo est le porte-parole de la Fondation OR.
Le nombre de tentacules de vêtements sur les plages et les plans d'eau a augmenté au fil du temps. Maintenant, les microfibres et les produits chimiques de ces vêtements, ces articles de vêtements qui envahissent les plages, s'infiltrent dans l'eau et finissent par polluer l'eau pour les communautés qui vivent à l'intérieur et autour des plans d'eau.
Selon les Nations Unies, 76% des ménages ghanéens risquent de boire de l'eau contaminée. Joseph Siao Ayezou, chercheur en écologie, dirige l'équipe de la Fondation OR. Il explique que l'équipe espère que ses recherches amèneront les fabricants de vêtements à être tenus responsables des déchets expédiés au Ghana et que cela se fera par le biais d'un système connu sous le nom de responsabilité élargie du producteur ou REP.
L'objectif principal de la Fondation OR est de pousser la politique de responsabilité élargie du producteur vers le Nord, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, pour le mal qui nous est fait en fabriquant des vêtements et en les poussant vers le bas de la chaîne pour que nous en subissions les conséquences. Les données que nous obtenons sont donc des preuves.
Yvette Tété espère qu'à la fin de sa natation, elle pourra inspirer d'autres personnes à protéger l'environnement, une brasse à la fois.
Au Togo, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est devenu ces dernières années la cible des pirates informatiques du fait de la digitalisation des services. Une expérience de simulation d'attaque de l'Agence nationale de cybersécurité a prouvé que le secteur est très vulnérable face aux attaques cybercriminelles. De Lomé, la correspondance de Kossi Wosu.
Dans leur quête de se mettre à la page, les hôtels et restaurants du Togo ont recours à la digitalisation de presque tous leurs services. Réservations et commandes se font désormais en ligne grâce à la mise à disposition de la connexion à Internet. Cependant, dans la majorité des hôtels et restaurants du pays, ces connexions ne sont pas sécurisées, ce qui laisse une porte d'entrée aux cybercriminels pour leurs opérations. Gota Gualiba, directeur de l'Agence nationale de cybersécurité ANSI.
La situation, disons, elle est peu reluisante. Nous avons remarqué que les professionnels de l'hôtellerie n'implémentent pas les mesures de cybersécurité. Voilà pourquoi il est facile de pirater leur système informatique ou leur réseau Wi-Fi.
Marcel est IT manager dans un hôtel de la capitale Lomé. Il est partagé entre la facilité aux clients et la sécurité qui peut être vue comme une contrainte.
Je me dis qu'aujourd'hui, l'une des qualités du service au niveau des hôtels, c'est l'accès facile à l'Internet. Si nous mettons des firewalls, parfois il y a certains utilisateurs qui n'ont pas l'accès facile. Moi, je pense que au niveau de chaque hôtel, il doit avoir un réseau privé pour le fonctionnement de l'hôtel et le réseau public.
Le responsable de la sécurité d'un très grand hôtel de la capitale qui accueille des grands rendez-vous internationaux et des personnalités reconnaît sa vulnérabilité et commence par prendre des mesures.
Nous avons été édifiés clairement sur tout ce à quoi nous pouvons être exposés à un moment ou à un autre, vu la qualité de la clientèle qui arrive souvent chez nous. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait déjà avec mon responsable informatique pour que vraiment on puisse limiter au maximum toutes ces attaques-là.
Au Togo, le bras armé de l'Agence nationale de cybersécurité est Cyberdéfense Africa. Mis en place par le gouvernement, il est disponible pour offrir ce service aux hôtels et les restaurants dans leur lutte contre la cybercriminalité. Palakiem Assi, directeur technique de Cyberdéfense Africa.
Nous sommes là pour accompagner toutes les structures hôtelières, restaurateurs, à sécuriser leur système d'information, à sécuriser leur Wi-Fi. On parle de Wi-Fi, mais il n'y a pas que le risque du Wi-Fi. Il y a aussi tous les serveurs, de comptabilité, de gestion de ressources humaines, de gestion financière, de gestion des réservations. Tous ces éléments qui transitent sur les systèmes d'information doivent être protégé protégée.
Une protection nécessaire pour préserver les données des clients des hôtels et restaurants du pays. L'Agence nationale de la cybersécurité vient d'initier une série de formations et de sensibilisations à l'endroit des structures hôtelières et restauratrices pour amoindrir leur exposition aux cybercriminels. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
La chaîne américaine Fox News a accepté de verser 787,5 millions de dollars à Dominion, l'entreprise de machines de vote électronique, pour régler l'accusation de diffamation lors de l'élection présidentielle de 2020. Pour parler de l'impact de cette affaire sur la perception du public à l'égard de la crédibilité des médias américains en général, Eric Manirakiza a joint à Washington l'analyste Marilyn Sefok, professeur à Howard University.
Alors évidemment, cela entache la crédibilité des médias aux États-Unis. Cela montre bien que le système démocratique peut être, si vous voulez, coopté, peut être entaché quand les informations qui sont véhiculées sont les mauvaises informations. Et c'est sur la base de ces informations que certaines personnes se sont d'abord révoltées et aussi ont participé aux événements du 6 janvier.
Est-ce que pour vous, cette affaire soulève-t-elle des préoccupations éthiques et de déontologie dans la manière dont Fox News a couvert l'élection présidentielle de 2020?
Évidemment, cela pose énormément de questions quant à l'impact des médias et à savoir quand ces médias ne suivent pas un certain code déontologique, eh bien, c'est non seulement le public qui en pâtit, mais c'est en fait tout le système démocratique qui est, si vous voulez, bouleversé.
Est-ce que vous pensez que c'est une affaire qui va affecter l'image de marque de cette chaîne américaine?
Absolument. Les journalistes, comme vous le savez, ils ont une certaine responsabilité déontologique, une certaine responsabilité vis-à-vis du public. Il s'agit avant tout de présenter des faits qui soient vérifiés et vérifiables. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, cela entache l'image même de la marque de Fox News. Au départ, on savait tous que c'était une chaîne de télévision qui avait une certaine tendance, une certaine couleur politique, non seulement de la droite, mais de la droite assez extrême. Et il s'agissait d'une chaîne qui n'était pas, si vous voulez, neutre. Cela montre que quand une chaîne de télévision et non seulement pas neutre, mais en plus de cela qu'elle s'initie dans le système électoral. Fox News a surtout entaché l'image même des machines électorales. Donc il s'agissait, si vous voulez, pour Fox News d'insister, pas sur la vérité elle-même, pas sur les faits, mais sur le résultat qu'ils auraient voulu obtenir. Et donc ça, ce n'est pas acceptable et cela entache, comme vous l'avez dit, la marque même, comme vous me l'avez posé comme question, la marque même de Fox News.
Cette affaire pourrait-elle conduire à une réglementation accrue des médias et de leur couverture électorale, en particulier en ce qui concerne la diffusion de fausses informations et la diffamation des entreprises et des personnes?
En tout cas, le public est demandeur d'une telle régulation parce que il faut, après tout, sauvegarder la démocratie. Il faut également pouvoir compter sur les médias pour avoir des informations qui soient fiables. Donc, un renforcement des règlements de la régulation des médias est très souhaitable, en tout cas.
C'était Marilyn Sefok, enseignante à Howard University.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TPU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine, dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dont RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique, super rapidos. Jobless. Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.